Pour nos deux chercheurs, le savoir est le pain quotidien. L'hypothèse que le développement des connaissances puisse être lié au bonheur d'un peuple s'est posée tout naturellement. Devant l'université, Martina sent comme un vibrato. Là, tout au fond.
Professeur, on dirait un navire!
Je n'ai jamais fréquenté d'école de rang, mais celle-ci nous en dit plus sur ce que nous sommes aujourd'hui que bien des places royales ou vieilles pierres réinventées. On y retrouve, par exemple, un échantillon saisissant de nos manuels scolaires des années 50 et 60, avec leur naïveté et leur morale envahissante, les manuels d'accompagnement si sexistes, l'histoire sainte et la géographie aussi sainte, et toute la panoplie de contrôle, de la vie de l'institutrice comme de son enseignement, des allées et venues des élèves comme de leur conduite. Les écoles des villes se portaient de la même façon, bien sûr, moins le poêle à deux ponts.
À Rouen, il s'est développé là des collèges.
Fernand Bellumeur.
Des possibilités d'études supérieures. Puis pour les filles, là, tranquillement, l'école normale de Ville-Marie, les écoles d'infirmières dans les hôpitaux. Il y a eu les écoles d'art et métier qui se sont développées après ça. Donc, il y a une certaine diversification, mais en silo.
Dans le fond, le collège...
Jean-Charles Coutu.
Au départ, on voulait en faire un séminaire. Parce qu'un séminaire, c'était pour que les gens deviennent des prêtres, éventuellement. Et comme il n'y avait pas beaucoup de prêtres qui sortaient du collège, on a décidé plus tard de faire un petit séminaire.
Les collèges classiques étaient des endroits élitistes.
Jean-Claude Beauchemin.
Petite élite qui venait former, à qui on rappelait à chaque début d'année, vous êtes l'élite de demain, vous avez une responsabilité sociale. Donc, des gens beaucoup plus soumis à l'autorité, beaucoup plus imbus de leur rôle futur.
Le collège de Rouen, c'était un des collèges où il y avait, d'une certaine façon, le plus de liberté dans la province de Québec. Dans le sens qu'on faisait plus confiance aux élèves. Les pères au bloc qui étaient là étaient très ouverts. La vie du collège était très intéressante.
En 1960,
Laurent Barrette.
Le gouvernement du Parti libéral avait entrepris ce que tout le monde connaît comme étant la révolution tranquille. Dans le niveau de l'éducation, il y avait du ménage à faire là-dedans. Le système était très complexe.
Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille.
J'étais à la Chambre de commerce, le père Brazo, qui était au bloc de Marie-Immaculée, qui était directeur des études au collège, nous arrive pour nous mettre en garde. Il y avait le rapport parent qui venait de sortir. On commandait les commissions scolaires régionales, les cégeps, etc. Le père Brazo vient nous voir, puis il nous dit à la Chambre de commerce, écoutez, réveillez-vous, faites quelque chose, parce que s'il n'y a pas un regroupement des commissions scolaires, il n'y en aura pas de cégep ici. Une fois que cette commission scolaire-là a été mise sur pied, là, on a formé un comité pour le collégial. Et les négociations se faisaient avec Québec, mais se faisaient aussi avec des comités qui avaient pris forme à Val-d'Or et à Amos, parce que tout le monde voulait avoir le cégep chez lui.
La commission parent disait que les cégeps devaient être créés à partir des institutions existantes. Et là où il y en avait à Amos et à Rouen. Finalement, avec l'aide de tous les organismes locaux, on a pu plaider notre cause.
Et disons que le fait qu'Antonio Flamand était député de Rouyn-Noranda à ce moment-là, ça l'a vraiment aidé. C'était une grosse bataille. La décision a été prise finalement dans les 7 premiers cégeps qui ont été érigés dans la province. Il y avait le cégep de Rouyn-Noranda. J'étais le premier président 67-68. C'était des années très mouvementées, très fertiles et très intéressantes.
Il a fallu engager des professeurs en arrivant. Il a fallu recruter des gens. On n'a pas le choix de dire « on va prendre des gens d'expérience ». Non, non. Tous les collèges recrutaient au Québec. Alors, il fallait donc prendre ces jeunes professeurs.
On avait appliqué dans tous les cégeps. On voulait être prof.
José Mediavilla.
Le seul cégep qui n'avait pas comblé son personnel au mois d'août, c'était Rouyn-Noranda.
Comme on avait aussi des jeunes administrateurs, moi, quand je suis arrivé là, j'avais 29 ans comme directeur des finances et j'avais une trentaine d'années quand j'ai devenu directeur général.
Mon premier emploi important, ça a été comme directeur des sports au cégep, qui était dans ses débuts. On venait de construire un nouveau pavillon d'éducation physique.
Jean-Paul Charlebois.
On a mis sur pied, entre autres, un mouvement qui existe encore. Les équipes sportives au niveau intercollégial, ce qu'on appelle les Gaillards et les Astrelles. Il y avait beaucoup de moyens aussi. On avait passablement de ressources à l'époque aussi sur le plan financier puis sur le plan humain. Puis on avait beaucoup de marge de manœuvre.
Nous étions des géants visionnaires.
Marie Bonaparte.
À l'époque, on n'avait pas de travailleurs sociaux, on n'avait pas de psychologues. J'étais toute seule en santé. Et ça me permettait de développer beaucoup de choses. quand on parlait de monter quelque chose, de développer quoi que ce soit, tout le monde était les oreilles ouvertes comme tu ne peux pas imaginer.
Aussitôt que les cégeps sont ouverts, c'est l'accession à l'éducation supérieure, gratuite, ouverte à tout le monde. C'était un temps d'effervescence.
Le temps des révérences, le temps du long silence, le temps de se taire est passé, c'est assez.
C'était l'année des grands mouvements étudiants. Il y avait eu le printemps étudiant en Europe. Et au Québec, ça a pris de l'ampleur à l'automne 68 avec l'occupation de toutes les cégeps.
Je pense qu'on était mûrs.
Roger Larivière.
À développer, oui, à se révolter, développer de la contestation par rapport aux façons d'enseigner. Avec un prof en avant qui connaît tout, puis nous, on reçoit comme si on était des cruches, en quelque sorte.
Il y avait là, ici un grand journal étudiant qui était Le Tremplin. Et Le Tremplin était le foyer, si on veut, de toute la mobilisation étudiante.
Il fallait que ça change. Là, ça craquait et ça craquait vraiment de toutes parts.
Le temps des sacrifices se vend à bénéfice. Le temps de prendre est arrivé.
Il existait un climat de libération qui nous avait rejoints.
Alors, évidemment, après le cégep, il fallait regarder plus loin. Via le collège, on a commencé à donner une formation des maîtres. On a accueilli dans nos locaux l'École normale de Rouen. Ça, ça leur a donné une espèce d'élan.
Tiens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille.
Au début des années 70,
Joanne Jean,
avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec à ce moment-là l'Université du Québec à Hull, on a eu des partenariats, il y a eu une offre de services universitaires et on a été créé seulement en 83, 13 ans après.
En Abitibi-Témiscamingue, le gouvernement avait décidé qu'il n'y aurait pas d'université. Et il y a eu une mobilisation générale de la région pour faire renverser la vapeur et obtenir les services de l'Université du Québec, ici comme ailleurs, puis on l'a obtenu de haute lutte, mais on l'a obtenu. Comme beaucoup de choses qu'il faut obtenir de haute lutte en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on n'est pas pesant sur le plan électoral.
Penser pouvoir faire vivre une institution universitaire avec seulement 150 000 habitants répartis sur un immense territoire, ça répond à aucune norme. Personne qui y croyait, sauf les gens d'Abitibi-Témiscamingue. Ça, on y croyait grandement. Donc, les gens ont fait une bataille importante et là, c'est toute la région.
C'est la seule université dans le réseau d'universités qui ne porte pas le nom de la ville. C'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et c'est son nom.
Le fait qu'on porte le nom du territoire est venu même de la raison d'être de notre naissance, si je puis dire, qui était d'être présent sur l'ensemble du territoire.
Quand on a fermé les écoles normales, on a commencé à donner des cours universitaires dans 11 centres de la région. Et on a voulu mettre ça dans les gènes de l'université, qu'elle va être décentralisée.
Pour assurer notre création, mais après ça, notre évolution. Et ça, c'est aussi ce qui nous distingue des autres institutions universitaires, parce qu'on est vraiment une des seules qui s'est déployée, à la fois en enseignement et en recherche, sur l'ensemble du territoire. Donc là, on retrouve un centre de recherche en agroalimentaire à Notre-Dame-du-Nord, un laboratoire de biomatériaux à la Sarre, une station de recherche en foresterie à Duparquet, un pavillon des premiers peuples, un laboratoire de recherche en télécommunications souterraines à Val-d'Or, un laboratoire de recherche en hydrogéologie à Amos. Et la grande majorité, à 80 % nos étudiants à temps complet viennent étudier ici à Rouyn-Noranda. C'est là où on a toute l'infrastructure d'accueil pour pouvoir offrir une formation de qualité. Quand on parle du secteur minier, c'est sûr qu'on a mis sur pied au fil des dernières années une équipe de recherche en environnement et gestion des résidus miniers. L'UQAT, actuellement, a très certainement la meilleure équipe de chercheurs au Canada. Donc, notre reconnaissance dans ce domaine-là, elle est mondiale. On a la même chose en aménagement forestier durable. On a des étudiants de partout dans le monde qui viennent chez nous étudier dans le secteur minier et dans le secteur forestier. Ah, c'est toutes des choses développées par des passionnés. On n'a pas le choix. On est tellement des petites équipes. Ça prend des passionnés pour faire ça. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à des choses qui défont les murs, qui font tomber toutes les barrières.